le magazine des Nations Unies.
Célébration de la journée de l'enfant africain, c'était le 16 juin dernier, sous le thème « Protégeons les droits de tous les enfants ». À cette occasion, les Léopards se servent de la fonction éducative du football et vont en campagne contre le recrutement d'enfants dans les groupes armés, ceci à la faveur d'un partenariat entre la FECOFA et la MONUSCO. Restons toujours dans la jeunesse, 4008 recrues de la base militaire de Kitona, l'école des valeurs morales. Une équipe de formateurs des sections substantives de la MONUSCO s'est rendue sur place. Objectif, assurer la formation en éducation civique des futurs militaires. Vous suivrez le reportage de Jean-Pierre et Lali Coco dans cette émission. Enfin, le programme éducatif congolais sera adopté dès l'année prochaine dans des écoles de réfugiés centrafricain du Nord Ubangi. Un responsable de l'école primaire Inquiet nous en dira davantage dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de UN Mag, le magazine des Nations Unies. Les Nations Unies, justement, ont célébré le 16 juin dernier la journée de l'enfant africain, en référence au massacre de Soweto des 1976. Pour cette année, le thème retenu est « Conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants ». À cet effet, la MONUSCO et la FECOFA affirment leur détermination à lutter contre l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Un partenariat de 2 ans vient d'être signé par la Fédération Congolaise de Football et la section Protection de l'enfant de la MONUSCO. Information rendue publique mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Jean-Pierre Lali Coco a assisté à cette conférence.
Maître Emmanuel Kandé, secrétaire général adjoint chargé des affaires juridiques de la FECOFA, explique les contours de la campagne que sa fédération et la MONUSCO comptent mener des concerts.
Nous avons intégré le fait que le football a aussi la mission éducative. Nous avons donc consenti de disponibiliser les Léopards de la RDC pour pouvoir lancer des messages à l'endroit de tous ces commandants de ces groupes armés pour pouvoir libérer les enfants. Le football aujourd'hui draine une passion. Lorsque les Léopards jouent, que ce soit ses commandants, que ce soit ses enfants, je crois que lorsqu'il y a un but, ils mettent un peu de côté les Kalachnikov et puis ils s'embrassent. Alors il est temps que par le message passé par ces footballeurs qui sont des idoles, qu'on arrive donc à laisser ses enfants jouer au football, pas avec une Kalachnikov à la main, mais qu'ils viennent plutôt. C'est comme ça que les Léopards, le capitaine, l'entraîneur Florent Ibengué, ont enregistré donc des messages avec la MONUSCO. Les vidéos vont devoir être diffusées au travers de la République. Nous comptons même déplacer l'équipe sur place, organiser des matchs.
Madame Di Breleberg, chef de la section protection de l'enfant de la MONUSCO, s'est réjouie quant à elle de ce partenariat qui vise à lutter contre le recrutement des enfants par les chefs rebelles.
Nous sommes ravis et très heureux que le FECOFA a signé une convention de partenariat pour dire au groupe armé, la balle est dans votre camp, c'est à vous maintenant de montrer bonne volonté. Vous êtes Congolais, laissez les enfants sortir des groupes armés. Le but est zéro enfant soldat sur le territoire.
Pour rappel, en 2015, la MONUSCO a recensé plus de 2500 enfants associés aux groupes armés. Et au premier semestre de 2016, 2000 enfants, dont 14% des filles, ont été sortis des groupes armés selon la section protection de l'enfant. L'effort est certes louable, mais il faut le poursuivre, estime la chef de la section protection de l'enfant de la MONUSCO. La campagne avec les Léopards entre justement dans ces cadres.
Toujours dans le cadre de la jeunesse, nous allons nous rendre au centre d'instruction de Kitona dans la province du Congo central, où, comme nous le disions, 4008 recrues viennent d'être sensibilisées sur l'éducation civique et patriotique. La formation a été assurée par des experts des sections substantives de la MONUSCO, sous la coordination de l'unité d'appui à la réforme du secteur de la sécurité de la mission onusienne. Jean-Pierre Lali Coco a accompagné la délégation de la MONUSCO et je vous invite à suivre son reportage.
Mercredi 8 juin, il est 10h à la base militaire de Kitona. Sous un soleil plutôt clément, 4008 recrues du centre d'instruction de Kitona gagnent en chantant dans les 5 stands installés à la veille. C'est pour y recevoir une formation de 2 jours sur l'éducation civique. Une formation assurée par l'équipe des sections substantives de la MONUSCO venue de Kinshasa, sous la coordination de l'unité d'appui à la réforme du secteur de la sécurité. Les contenus de la formation comprend 5 thématiques. Les droits de l'homme, la protection de l'enfant, notamment en temps de guerre, les violences sexuelles et les genres, le VIH-SIDA et naturellement le droit international humanitaire. Maître Mireille Mouleka du bureau conjoint des droits de l'homme s'épanche justement sur le droit de l'homme.
Papa, le bac qui est en premier, le bac droit de l'homme est d'abord garanti juridique.
Maître Emmanuel Nongera aborde la question de la protection de l'enfant et de ce droit, mettant un accent particulier sur le plan d'action visant à sortir les FRDC de la liste noire des parties en conflit qui violent les droits des enfants. Il explique.
Les amis peuvent fort gouvernement ils ont ça là pour armer Nabisso et bimaper dans la liste noire des partis au conflit qui violent les enfants, qui commettent des violences sexuelles. Tokani, voilà plan d'action. Le gouvernement Nabisso est signé qui le 4 octobre 2012 pour lutter contre la violation grave auto limbolasico, maître mutilation d'enfants, recrutement et utilisation d'enfants, enlèvement, viol et violences sexuelles, attaque contre les écoles et les hôpitaux et refus d'accès à l'assistance humanitaire.
Franck Ngoyi et Jean-Claude Langoulou ont tenu en haleine le recrue sur le VIH-SIDA et les moyens de prévention.
Donc la bandela, 3 voies principales. Bandela zami sat obokoza maladie wana. Zela liboso kosangana zoto na mutoza maladie sans protection, sans préservatif oza maladie wana. Yami balé makila, keba na makila. Yami satu mama azana maladie akoki ko pesa ngwe pa mwana na ye. Tangu mwana azana libumu ou bien mukola mwana zo botama.
Et Madame Yolande Serrano a de mots justes pour dénoncer les violences sexuelles.
Pourquoi c'est très important de parler des violences sexuelles? Parce que deux choses. La première, c'est que vous, comme d'ici à quelques jours, non, vous devenez militaire de la CFRDC. Vous devrez l'obligation de défendre votre peuple, votre citoyen, parmi toutes les agressions et toutes les violences que les Congolais sont victimes, les hommes, les femmes, les filles.
Après chaque exposé, un jeu de questions-réponses vient édifier davantage les apprenants. D'où la satisfaction de Maître Ray Mwemba de l'unité d'appui de la MONUSCO à la réforme du secteur de la sécurité.
D'abord, il faut dire que nous sommes très satisfaits parce que nous avons atteint nos objectifs. C'est-à-dire que nous avions comme souci de pouvoir appuyer les FRDC dans cette session de sensibilisation sur l'information des recrues. Parce qu'il s'agissait d'une activité de sensibilisation pour essayer les aider à avoir un niveau de comportement élevé. Parce qu'ils ont suivi une formation tactique, mais ils ont aussi besoin d'une éducation comportementale. C'est comme ça que nous avons essayé, dans le cadre de nos attributions, de mettre en place une stratégie de sorte que les sections substantives puissent appuyer les FRDC dans cette activité de sensibilisation.
Enfin, une parade militaire a lieu le vendredi pour marquer la fin à la fois de la formation et de la première phase d'instruction des recrues de Kitona.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
72 écoles certifiées assainies dans la nouvelle province de l'Équateur dans le cadre d'un programme initié par le gouvernement en 2008 avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Honoré Missenga a accompagné l'équipe des Nations Unies en mission dans l'ex-province de l'Équateur. Il était dans une école déclarée assainie à Mbandaka, école primaire Boboto. C'est là qu'il a rencontré M. Christin Ituta, point focal du programme École assainie dans la nouvelle province de l'Équateur. M. Ituta explique le concept École assainie et les différentes étapes de ce programme.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qu'une école assainie?
Une école assainie, c'est une école qui a accompli 4 normes. L'accomplissement des 4 normes permet à l'école d'être déclarée assainie.
Quelles sont ces normes?
La première norme, c'est qu'au moins 80% d'élèves ont accès à l'eau potable. Ça, c'est la première norme. La deuxième norme, au moins 80% d'élèves utilisent des latrines hygiéniques. Et la troisième norme, au moins 80% d'élèves connaissent les moments critiques de lavage de mains. Et la quatrième norme, c'est l'école propre. Alors, les quatre normes-là, ce n'est pas comme une baguette magique. ça ne vient pas du coup comme ça. Donc il faut les étapes. C'est tout un processus. Et le processus a 8 pas. Dès que l'école entre dans le programme, suit les 8 pas là, le 8e pas, ça c'est la certification de l'école, le 8e pas. Donc en bref, il y a la décision communautaire, l'école se décide de s'adhérer au programme. Le 2e pas maintenant, il y a un protocole d'accord entre la sous-division et l'école. Le 1er pas maintenant, un, c'est l'engagement mutuel. Et le pas B maintenant, là, on fait l'enquête. Après l'enquête, maintenant, les acteurs doivent être formés. Après la formation, maintenant, la communauté scolaire fait maintenant les analyses. Analyse des conditions hydrosanitaires de l'école.
Mm-hmm.
Et le 5e pas, maintenant, c'est la planification. L'école fait maintenant la planification parce qu'au 4e pas, il a fait les analyses. Il a identifié les problèmes au niveau de l'école. Après les analyses, maintenant, il faut un plan pour résoudre les problèmes de l'école.
Oui, après la planification.
Après la planification, la mise en œuvre. C'est là où les ONG viennent maintenant nous appuyer avec l'appui de l'UNICEF pour venir faire la mise en œuvre.
Mm-hmm.
Après, maintenant, on revient encore à la quête CAP. Après la quête CAP, maintenant, l'école est déclarée assainie.
Alors, si je comprends bien, pour devenir une école assainie, il faut adhérer à un programme.
Bien sûr, c'est le programme école assainie. C'est là où je venais de vous dire au début là-bas. L'école s'est engagée, s'est décidée, maintenant, nous devons nous adhérer. Fait une demande. Et dès que la demande est acceptée au niveau de la sous-division, maintenant, l'école suit les processus.
Normalement, toute école doit être assainie, non?
Effectivement, vous comprenez la situation de notre pays. Si ce programme a été mis en place, c'est tout simplement pour pallier aux différents problèmes qui sont dans nos écoles. Nos écoles connaissent beaucoup de problèmes. C'est pourquoi l'école assainie vient faire un coup de pouce pour essayer un peu de réveiller les écoles.
Alors, combien d'écoles dans cette province sont dans le programme école assainie?
Généralement, nous avons au moins 300 et quelques écoles. Je ne sais pas le chiffre exact. Mais aujourd'hui, à ce jour, pour notre province, nous avons 72 écoles qui sont déclarées assainies.
Oui, 72 écoles déclarées assainies. Sur combien qui sont dans le programme?
C'est ça ce que j'ai dit. 300 et quelques. Moi, c'est 312, quelque chose comme ça.
Quel est le rôle de l'UNICEF? Le rôle concret que joue l'UNICEF dans ce programme?
Le rôle de l'UNICEF est primordial. C'est l'appui, un appui vraiment confortable qui nous permet, qui appuie d'abord les ONG pour faire la mise en œuvre, appuie aussi les gouvernements congolais pour la réalisation de ces vastes programmes d'école assainie. Il n'est pas seulement seul, il y a aussi DFID qui est là pour nous appuyer.
Oui, on peut être aujourd'hui déclaré une école assainie, peut-être 2 mois ou 6 mois ou une année après, perdre son statut.
Bien sûr, c'est là où, ça c'est ça l'une des difficultés de la phase IN. C'est-à-dire qu'il y avait des écoles qui étaient déclarées assainies aujourd'hui, même 1 mois, 2 mois plus tard, il perd son statut. C'est ainsi qu'avec la deuxième phase, il y a la post-certification. C'est juste pour permettre à l'école de faire des activités qui vont lui permettre à tout moment de garder son statut d'école assainie.
Alors, quelles sont les conséquences d'une école assainie? Quel est l'impact sur le plan sanitaire?
Oui, l'impact, d'abord, je vous dis qu'une école qui est dans le programme école assainie, la première chose, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'absence dans l'école, parce que les enfants ne tomberont pas malades. Et quand les enfants ne tombent pas malades, vous comprenez qu'ils suivent les cours. Et, en fin de compte, il y a les taux de réussite au niveau de l'école.
Qui monte.
Qui monte. Donc, vous allez comparer que, par exemple, cette école, avant le programme école assainie, il y avait beaucoup d'absence, il y avait beaucoup de maladies, les taux de réussite étaient trop bas. Mais avec l'avènement du programme école assainie, les taux de réussite ont augmenté parce qu'à tout moment, il y a les enfants ici au niveau de l'école, les enfants ne tombent pas malades. Ce qui fait que, tout à fait normal, que l'impact doit être vraiment très positif parce que la présence de ces programmes ici donne les enfants la possibilité de suivre tous les cours de septembre jusqu'au mois de septembre. Et non seulement ça,
jusqu'au mois de juin.
Jusqu'au mois de juin, juillet. Ça ne s'arrête pas là-bas. Même au niveau des parents. Un parent qui, à tout moment, l'enfant tombe malade, il doit aller débourser de l'argent au niveau de l'hôpital. Tandis qu'un enfant qui ne tombe pas malade, vous comprenez que les parents ne perdent pas de l'argent au niveau de l'hôpital. Ils dépensent de moins. Non seulement ça, un enfant quand il tombe malade, les parents ne peuvent pas aller au travail. Hein. Vous comprenez que, au lieu d'aller au champ, au lieu d'aller au travail, il doit s'occuper de l'enfant parce que l'enfant tombe malade. Comme l'enfant ne tombe pas malade, c'est qu'il y a encore un peu d'argent qui est réservé. Donc, l'enfant peut continuer les cours normalement. Voilà.
Monsieur le point focal, au vu de ce que vous venez de faire en tant que point focal, est-ce que vous avez peut-être des difficultés dans le cadre de la réalisation de ce programme?
Dans tout travail, il ne manque pas de difficultés, surtout au niveau des écoles, quand nous sommes en train de réaliser. Tellement qu'il y a des changements des acteurs. Il y a changement des enseignants, il y a changement des gestionnaires. Alors, à tout moment qu'il y a un changement, par exemple, les enseignants au niveau de l'école, vous devez à tout moment reprendre, donner la matière à l'enseignant qui vient d'arriver pour qu'il puisse comprendre le programme. Sinon, s'il n'a pas la matière, il ne peut pas donner aux enfants. C'est là l'une des difficultés. Mutation, changement des acteurs, ça nous pose problème. Et aussi, les problèmes des ouvrages. Il y a les ONG qui, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas à respecter, par exemple, le design qui est prévu. Ou ils font un travail qui n'est pas conforme aux normes. Ça nous pose problème parce qu'après quelques temps, l'ouvrage s'abîme. L'ouvrage qui coûte énormément, tel qu'une pompe, si ça s'abîme vite, Voyez, l'école va perdre maintenant son statut parce qu'il n'y aura plus un point d'eau. S'il faut avoir un point d'eau, il faut encore d'énormes moyens pour réaliser un autre point d'eau. C'est ça la difficulté.
Est-ce que vous avez un vœu par rapport à toutes ces leçons tirées, par rapport aux difficultés?
Oui, mon souhait le plus ardent pour les ONG, qu'ils fassent un bon travail. Même s'il n'y a pas quelqu'un derrière, il doit faire un bon travail parce que ça vaut de l'intérêt d'abord. Là, le témoignage de l'ONG et aussi pour l'intérêt des enfants, il doit faire un bon travail. Alors, au niveau de l'hierarchie de l'EPSP, vraiment de diminuer sensiblement les mutations des gens. Parce que ça nous pose beaucoup de problèmes.
Monsieur le point focal, merci.
C'est moi qui vous remercie.
La journée de l'enfant africain, c'est par là que nous ouvrons cette page. Cette journée commémorée le 16 juin de chaque année. Cette année n'a pas fait exception. Plusieurs activités ont été organisées à travers la RDC, notamment des journées d'information et de sensibilisation à l'attention des enfants, des partenaires étatiques et de la société civile. À l'occasion de la célébration de cette journée, l'UNICEF a souligné la nécessité de comprendre que la dévastation qui accompagne les conflits et les crises à travers le monde affecte négativement les enfants de diverses manières. Autre nouvelle, c'est l'ouverture par l'UNESCO d'un nouveau cycle de soumission de projets pour le Programme international pour le développement de la communication, PIDC. L'annonce a été faite un mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Les organisations des médias de tous les États membres de l'UNESCO peuvent présenter leurs propositions de développement. Le délai court jusqu'au 4 juillet 2016. Les propositions peuvent prétendre à une aide comprise entre 10 000 et 35 000 dollars américains. Enfin, 96 cadres et agents de la PNC en session de recyclage à Oicha, dans le Nord Kivu. Recyclage en maintien et rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'en gestes et techniques professionnelles d'interpellation. La session est assurée par la cellule en charge de la formation de la MONUSCO à travers une structure spéciale, la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Beni, SOLIB en sigle.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche, c'est encore le chef d'antenne MONUSCO Mbandaka, messieurs Esso ici. Dans la première partie de l'interview qu'il a accordée à Honorim Senga Kalala, il a parlé des objectifs d'une antenne MONUSCO et de l'importance de la mission de l'antenne qu'il dirige. Dans cette deuxième et dernière partie, Esso ici explique notamment ce qu'il faut entendre par le concept protection des civils et porte un regard critique sur la perception que se font les populations congolaises. Suivez plutôt cet entretien.
Monsieur Esso Essis, bonjour.
Bonjour.
L'un des rôles essentiels des bureaux MONUSCO, c'est la protection des civils, mais dans la dernière résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2277, la protection des civils doit concerner toute la République démocratique du Congo. Comment vous pouvez jouer ce rôle-là avec des moyens réduits comme actuellement?
Oui, la protection des civils ne se résume pas à la présence de forces de la MONUSCO ou de la police. Il y a trois concepts au niveau des Nations Unies de la protection des civils. Donc, la première manière de protéger les civils, c'est d'engager les bons offices avec les autorités nationales, avec les autorités provinciales, avec les autorités locales, pour faire en sorte que les problèmes qui ont des relents politiques puissent se régler de manière politique. La deuxième manière d'assurer la protection des civils, bien sûr, si le reste ne se réalise pas, c'est que, effectivement, on puisse apporter une protection physique aux gens qui courent un risque de danger imminent pour leur sécurité ou pour leur intégrité physique. Mais il y a une autre forme de protection des civils qui se fait à travers donc ce qu'on appelle la promotion ou la création d'un environnement protecteur. C'est le travail constant de discussion, d'information, de négociation avec les autorités locales, avec les services de la police, les FRDC, pour effectivement réduire la possibilité de risque et pour créer ce qu'on appelle donc un environnement protecteur. Cette modalité de protection des civils fait partie intégrante de notre mandat de monitoring et de reporting sur les droits civils. D'ailleurs, sur cette question, le mandat auquel vous faites référence de la MONUSCO pour cette année, en élargissant, en insistant sur la nécessité de concevoir l'action de la MONUSCO sur l'ensemble l'ensemble du territoire national interpelle donc le leadership de la MONUSCO par rapport à la nécessité d'une sécurisation des élections sur l'ensemble du territoire et de veiller donc à ce que ces élections-là soient apaisées. Et donc ça demande un travail considérable d'anticipation sur les problèmes éventuels, sur les conflits qui sont latents ou déjà plus ou moins manifestes, mais de mobiliser un certain nombre d'énergies au niveau local, au niveau provincial, pour commencer à lancer des messages vers les populations, vers les communautés sur l'importance de vivre en paix, même en année électorale, parce qu'une élection, ça ne devrait pas être l'occasion de conflits sans fin, de conflits meurtriers. L'élection devrait être justement l'occasion pour le pays de désigner les responsables qui peuvent exercer les différentes fonctions publiques.
Deux petites dernières questions. La première, quel regard pensez-vous que la population de l'Équateur porte sur la MONUSCO?
Je dirais que ce n'est pas seulement au niveau des populations, c'est également parfois aussi au niveau des autorités que nous rencontrons. Il y a comme une idée que le départ de la MONUSCO est une catastrophe, en tout cas une chose regrettable, et il faudrait que la MONUSCO revienne. Je crois que cette perception doit être, si vous voulez, critiquée. Il faut pouvoir dire aux gens que ce n'est pas forcément une bonne chose que la MONUSCO revienne. La MONUSCO est une mission de maintien de la paix. Son rôle est de venir assister un État qui n'arrive pas à régler les conflits naturels dans la vie d'une communauté par des moyens pacifiques, par des moyens légaux, judiciaires. Lorsque ce pays est en crise, nous intervenons pour essayer de redonner cette capacité à l'État de faire les choses par lui-même. Et c'est la responsabilité de l'État. Cette responsabilité ne peut pas être déléguée à qui que ce soit. Donc le système des Nations Unies intervient en particulier avec les missions pour faire de la gestion de crise. Mais après, il faut bien que la mission puisse se retirer en laissant une présence des Nations Unies en matière d'agence d'appui au développement et d'appui également à la résolution des questions humanitaires. Et donc c'est ça qu'il faut souhaiter. Il faut souhaiter que les problèmes qui ont justifié la présence de la MONUSCO soient résolus suffisamment vite et que l'État reprenne la pleine possession de sa souveraineté et l'exprime à travers les services qui sont donnés à la population. Il ne faut pas regretter le départ de la MONUSCO de ces zones. Cela dit, il y a des raisons objectives pour lesquelles les gens se plaignent du départ de la MONUSCO et souhaitent son retour. C'est l'influence que cela a sur les capacités opérationnelles au niveau de l'économie locale, au niveau de l'économie provinciale. Et donc nous comprenons ces choses-là et nous essayons donc d'expliquer aux gens que l'une des choses compense en quelque sorte l'autre. L'opportunité qu'on a de se prendre en main devrait compenser la perte immédiate de ressources liées à la présence d'agents du système des Nations Unies. Donc en fait, rétablir la vérité par rapport à cette perception fait également partie de notre mandat de gestion des attentes de la population par rapport à la mission et par rapport au système des Nations Unies en général.
Et vos rapports avec les autorités, est-ce que vous facilitez la tâche au niveau de l'Équateur?
Oui, nos rapports avec les autorités sont excellents. Je crois que partout où nous allons, les autorités nous rappellent que nous sommes des partenaires pour elles. Parfois nous l'oublions et lorsque nous demandons certains avantages, comme par exemple lorsque je me déplace pour prendre un rendez-vous, récemment je m'étais déplacé, j'avais jugé utile de me déplacer, d'aller vers le gouverneur de la province pour demander un rendez-vous pour une délégation qui devait venir. Et lorsque je suis arrivé là, la vice-gouverneure que j'ai rencontrée m'a dit, écoutez, vous savez, MONUSCO est le système des Nations Unies, vous êtes notre partenaire, si vous arrivez chez nous, nous sommes obligés de vous recevoir et nous le faisons toujours avec vous. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que j'essayais d'enfoncer une porte ouverte. Mais je crois que cette approche, cette manière d'être, cette disposition vis-à-vis du système des Nations Unies et de la MONUSCO est partagée partout où nous rencontrons nos autorités provinciales ou locales en RDC.
Monsieur Esso Assis, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Nous nous rendons encore une fois à Gbadolité, Honoré Bangui, d'où est revenu Honoré Missenga Kalala. Les écoles, des réfugiés, centres africains fonctionnant dans les différents sites de cette province adopteront toutes, dès la prochaine année scolaire, le programme scolaire congolais. Cela s'appelle le basculement. Le directeur de la deuxième vacation de l'école primaire de Inke, à 45 km de Gbadolité, l'a dit au micro de l'envoyé spécial du magazine des Nations Unies.
Je me nomme Fatila Alphonse, le directeur de la deuxième vacation de l'école primaire Inke. C'est généralisé sur les autres centres des réfugiés dans le nord Ubangi, c'est-à-dire à Molé, à Boyabo, à Inke. Par contre, à Bidi, ils ont démarré directement avec le programme congolais parce qu'il n'y avait pas des enseignants centrafricains sur place.
Alors, quelle est la cause de ce basculement? Pourquoi vous devez entrer dans le programme congolais?
Oui, c'est un tout petit peu international. À l'échelon international, il y a une loi qui dit que quand un réfugié entre dans un pays, il doit suivre le programme de ce pays-là. C'est cette loi que nous devons appliquer.
Mais pourquoi ça ne s'est pas appliqué jusque-là?
Oui, ce retard a été de la part des humanitaires parce que la sous-région n'était pas sur place, c'était encore à Guémena ou quelque part ailleurs. Et puisqu'ils viennent de s'installer, ils ont voulu corriger le passé.
Donc à partir de l'année scolaire 2016-2017, vous entrez dans...
Sans doute dans le programme congolais.
Ça ne vous gêne pas?
Non, je ne crois pas, parce que le français, il est international. C'est la même leçon que nous avons étudiée, sauf la petite difficulté, c'est à propos de la leçon d'histoire ou de géographie. C'est cette nuance-là, voilà, un peu comme ça. Mais le reste, c'est bon. Non, c'est universel.
Magazine des Nations Unies, de Science aux Nations Unies.
L'assistance humanitaire pose problème à Bouléoussa, c'est au Nord Kivu. Que font les organisations humanitaires? Yvon Idoumou, porte-parole et chargé du plaidoyer à Ocha, répond à cette question.
La situation de Bouléoussa devient de plus en plus critique. Nous voulons savoir, peut-être du côté des humanitaires, ce qu'ils font pour essayer d'apporter leur assistance à cette population qui est dispersée à Bouléoussa et des environs.
Nous avons effectivement participé à une mission qui a eu lieu hier dans le village de Bouléoussa. L'idée, évidemment, était de faire le point sur les premiers besoins de ces populations. Grosso modo, ces besoins s'évaluent comme toujours en termes de besoins primaires, notamment pour tout ce qui est relatif à la santé. Les informations que nous avons, le centre de santé du village est débordé, vu le nombre de blessés qui ont été admis suite aux affrontements. Il y a aussi, évidemment, un gros besoin en nourriture, puisque les personnes qui ont fui le site de déplacés se retrouvent, comme le colonel le disait, au sein d'un camp FRDC, et il faut pouvoir nourrir toutes ces personnes-là. C'est essentiellement ces deux besoins. Nous allons continuer à faire l'évaluation de la situation afin de pouvoir répondre à ces besoins le plus rapidement possible.
Magazine des Nations Unies, Orchid Easy.
Je réponds au nom de Madame Agnès Fariala. Je suis mère de 7 enfants. Actuellement, je suis le chef de bureau de l'UNICEF pour le compte du Grand Équateur. Je suis médecin de formation. Avant l'UNICEF, j'ai commencé comme médecin traitant dans la province du Sud Kivu. Ensuite, médecin directeur, médecin chef de zone. Et c'est de là que je quittais pour être à l'UNICEF aujourd'hui. Je suis à l'UNICEF depuis 2008. Si je dois parler de mes fonctions actuelles, je dirais que quand j'arrive à l'UNICEF le matin, je dois d'abord prendre la température du bureau, me rassurer que tous les collègues sont là et de voir quelles sont les priorités de la journée. Et ensuite, j'essaye de checker mes mails pour voir quels sont les mails prioritaires. Et là, je dirais que le mail prioritaire, ce sont les mails qui viennent de ma hiérarchie et de voir aussi quels sont les mails qui demandent à ce qu'on arrive à agir de toute urgence. Une fois que j'ai à planifier ma journée, alors là, j'essaie de voir quelles sont les tâches que je dois accomplir en priorité et aussi continuer avec la routine. Je dirais que mon temps libre, c'est plus le week-end. Parce que mon travail me prend pratiquement tout le temps et des fois j'ai pas assez de temps pour consacrer à ma famille. C'est pourquoi mon week-end, j'essaie d'être un peu une mère de famille, quoi. Je ne suis pas seulement une mère pour les enfants de la RDC. Je dois aussi accorder un espace pour mes propres enfants, pour ma famille. Donc mon week-end, c'est d'abord pour essayer de me refaire aussi la santé. Et là, je tiens toujours à observer ma marche, parce que chaque samedi, le matin, je fais un peu la marche pour la santé. Et dans la suite, j'essaye de faire autre chose que le travail de bureau. Donc, je suis vraiment une femme au foyer pendant le week-end. Bon, je pense que si vous posez la question même à mes enfants, parce que chaque fois on fait un peu un truc comme génie en herbe, si vous leur posez la question quel est le repas préféré de maman, ils vous diront le riz au pondo. Ça, j'adore, je peux manger ça du lundi à dimanche sans me fatiguer. Bon, la musique, je dirais que j'aime bien la musique chrétienne. Et ce que j'aime, ça mes enfants le savent aussi, j'aime beaucoup le théâtre, parce que dans ma jeunesse, j'étais actrice de théâtre. Et ça, j'aime beaucoup. Même à la télé, on se dispute un peu avec les enfants quand on essaie de zapper. Il y a le théâtre sur une chaîne. Je leur dis, écoutez, donnez-moi un peu de temps, je vais suivre la pièce. Voilà. Bon, pour le sport, je dirais que quand j'étais jeune, j'ai joué au volleyball. Mais actuellement, bon, je dirais que le sport n'est plus vraiment mon fort, quoi. Il n'y a pas un sport que je regarde avec passion à la télé, si pas la marche que je fais chaque samedi. Mon rêve, et ça, je l'ai discuté avec mon père quand il était vivant, son souhait était de me voir être responsable d'une structure sanitaire. Donc, si jamais je devais, après UNICEF, choisir d'être indépendante, je pense que j'aurais à créer ma propre clinique pour être au service de la nation. J'adresse le petit coucou à tous les auditeurs de la radio Okapi. C'est une radio que j'aime bien suivre le matin pour être à jour en rapport avec les informations du pays. Et bon courage à tous les journalistes qui font un travail formidable de nous informer au jour le jour sur les réalités de notre pays. Et je dis aussi bon courage à tous mes collègues de l'UNICEF. Je sais que nous sommes engagés dans une bataille pour la cause des enfants. Et je pense que les défis sont énormes, mais nous ne reculons pas et nous pensons que nous allons y parvenir.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
À vos agendas, mesdames et messieurs, notez que le 21 juin, en tout cas à la CPI, Cour pénale internationale, nous en saurons davantage sur le sort de Jean-Pierre Bemba. Et c'est ainsi que nous bouclons ce magazine des Nations Unies. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, dimanche prochain, bien évidemment, à la même heure et sur la même fréquence. Sinon, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Alors on dit merci à Jean-Pierre Elali Coco qui l'a coordonné. Merci à Honoré Missinga Salala qui était au reportage. Martin Sebujangwe l'a supervisé. Et André Mongou l'a mise en onde. Je suis Tina Salama et comme toujours, c'était un plaisir de vous le présenter. À très bientôt.